You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et bonsoir, vous êtes en direct comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois du Centre d'Animation Saint-Pierre pour une heure de folie autour des cultures libres avec ce soir autour de la table Isa. Bonsoir
et
Isa.
Et bonsoir Yorick.
Voilà, et Samir qui est tout nouveau. Bonsoir Samir.
Et bonsoir Yorick.
Voilà. On est que de... On fait...
Moi je ne l'ai pas entendu dans mon casque, donc je ne sais pas si tout le monde l'a entendu.
On va monter un peu le son Samir.
Ouais.
C'est mieux.
Alors, ce soir, ils nous ont tous lâchement abandonnés. Seul Antoine a prévenu qu'il ne viendrait pas, mais on va l'appeler tout à l'heure. On lui dira un petit coucou. De quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien là...
Total impro.
Non, c'est pas vrai.
Toi, t'as préparé des trucs.
J'ai
c'est
quand
bien
même
ça.
Préparé des trucs.
Non, moi, j'ai rien préparé, mais bon.
Alors, comme d'habitude, on va vous parler de jeux vidéo sous Linux. Quoi d'autre hein, vous êtes habitués else maintenant. Hein. Ici, on est toute une bonne tranche de bons gamers. On va vous parler aussi de la triste nouvelle qui a balayé le web ces derniers jours, à savoir le départ de Tristan Nitto de la Mozilla Europe. Voilà, il quitte ses fonctions au sein de la fondation Mozilla, mais c'est pour se consacrer à d'autres choses qui lui font envie et malgré tout la vie continue, surtout pour notre navigateur web préféré. On y reviendra tout ça un peu plus tard. Vous pouvez aussi nous appeler. Alors, il n'y a pas Antoine pour donner le numéro, donc on ne le connaît pas, mais vous allez sur girol.org et vous le trouverez.
Non, mais je pense que si tu regardes sur IRC, tu dois l'avoir aussi en haut, quelque part.
D'ailleurs, tu fais bien de parler de l'IRC. On peut dire à nos auditeurs, qui doivent être sûrement très très nombreux, il y a trois autour de cette table.
Trois et demi.
Que vous pouvez nous contacter par l'IRC, irc.freenode.net. Le salon, c'est Dies Girol. Sinon, www.girol.org. Il y a une petite application de chat directement sur la page radio, comme ça vous pouvez écouter la radio et chatter avec nous en direct et on vous répond. Sinon vous pouvez téléphoner et sur le même site Girol vous avez le numéro de téléphone. On va commencer par un petit morceau de musique histoire qu'on puisse préparer quelque chose, parce que vraiment on n'a vraiment rien préparé, et on revient après. C'est Cognitif sur Radio Girol.
We'll be right back.
Girol vous donne le micro au 05 81 31 43 31.
Girol, la radio.
Et comme ça, vous avez le numéro de téléphone. C'est notre ami Antoine qui le dit sur ce super jingle. Donc, vous êtes de retour en direct toujours du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux ou en différé si vous nous écoutez un peu plus tard directement sur notre site www.girol.org. Alors, c'est une nouvelle qui a balayé le web international. Tristan Nitto, le charismatique, je ne sais plus qui était, président de Mozilla Europe, a quitté ses fonctions et s'est libéré de Mozilla. C'est une bien triste nouvelle parce que c'est un personnage haut en couleur du web français et même international. Il va se consacrer, a-t-il dit, à l'écriture d'un livre sur la vie privée, la protection de la vie privée, qui est devenue ces derniers temps quelque chose de très important, du moins un véritable enjeu de société. Il va se consacrer aussi au coaching parce qu'il a monté apparemment, il est devenu coach personnel, notamment grâce à ses fonctions au sein de la Fondation Mozilla. Et voilà, donc c'est une bien triste nouvelle.
Oui, mais bon, c'est s'il avait envie de changer, on peut comprendre aussi.
C'est ça. Je vous invite à aller lire le billet sur ce qui est très intéressant sur son blog, standblog.org, je crois. Attendez, on va essayer de taper ça et de trouver.
Hop, on entend Yuri qui tape au clavier. Je fais les commentaires audio,
voilà.
N'est-ce pas
hein voilà. Standblog, standblog.org. Vous avez le blog de Tristan Nitto. Il est moitié français, moitié en anglais. Et il explique notamment, effectivement, son départ de la Fondation Mozilla. Voilà, il avait notamment participé à la création de Mozilla Europe, qui était revenu sous le giron de la Fondation Mozilla il y a quelques années. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un acharné des standards, un libriste convaincu, et ça fait toujours du bien d'avoir dans les cultures libres des personnes comme lui. Notamment on apprend qu'il participe quand même à une chronique sur la chaîne No Life, la véritable chaîne des geeks pour ceux qui connaissent. C'est une bien triste nouvelle, mais
oui, mais ça n'empêchera pas Mozilla de continuer à exister.
Voilà, c'est Mozilla, c'est avant tout, c'est nous. Il ne faut pas oublier, c'est le logiciel libre, c'est nous tous. Enfin, on lui souhaite en tout cas bon courage pour la suite et plein de bonnes choses.
En effet.
Alors, de quoi allons-nous pouvoir parler ensuite? De jeux vidéo, comme d'habitude.
Oui, mais si... alors il manque Mathieu. Comment on va faire?
Il manque Mathieu, mais vous inquiétez pas. On a tout ce que. Il suffit d'aller sur le pas de Girol.
Ouais, tu auras toutes les informations.
Hop. Sur le pas de Girol.
Voilà, c'est ça. Alors, j'avais noté la sortie de Dying Light sous Linux. Vous connaissez peut-être, si vous êtes des fans de Linux, vous connaissez de jeux sous Linux, vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler de Dead Island, enfin, qui n'est pas sorti que sous Linux. Un joli FPS où il faut slasher du zombie à tout va, les découper en morceaux, en faire de la bouillie dans un monde ouvert. Ce jeu est sorti il y a quelques mois sous Linux. Moi, j'ai fait partie des acheteurs, effectivement. Et même si je ne connaissais pas vraiment ce titre, il m'a, ma foi, bien plu. Et ils ont remis le couvert, ils ont sorti un autre jeu dans le même style, c'est-à-dire un monde ouvert dans lequel on chasse du zombie, qui s'appelle Dying Light. Il est sorti sous Linux en même temps que la version Windows, et ça, c'est une très très bonne avancée quand même pour le jeu vidéo sous Linux. Merci SteamOS. Et donc, je l'ai installé sur mon PC SteamOS, et là, ça a été la catastrophe. 3 semaines après la sortie du jeu, je ne peux toujours pas y jouer.
Ah!
Parce qu'il
c'est
ne
dommage.
Fonctionne pas bien. Le jour de la sortie sous Linux, il plantait lamentablement au bout de 5 minutes. Ah. Et quand ils ont réussi à résoudre le problème, les zombies avaient l'air de Silver Surfer, en fait. Vous savez, le personnage de Marvel, tout chromé. Voilà, donc c'est génial. Tu joues à un jeu de zombies.
Manque un peu de texture, quoi.
Voilà, ça manque un peu de texture, mais c'est à la fois très brillant. Hein. C'est des zombies en argent. Il faut quand même souligner, comme je l'ai dit, que ce jeu est sorti sous Linux en même temps que sous Windows. C'est quand même un énorme tour de force, parce que c'est un jeu triple A. À savoir que le jeu est sorti en version dématérialisée avant sa sortie officielle sous support DVD Blu-ray, qui doit intervenir au mois de mars. Effectivement, on comprend pourquoi, parce que même de toute façon, les utilisateurs de Windows se plaignent de gros problèmes comme performance graphique à la ramasse, surtout même sur des cartes graphiques de dernière génération et sur des machines de course. Bugs en tout genre, quêtes qui ne se finissent pas, quand on doit donner un objet à un personnage, non, il ne le prend pas. Enfin, ça évolue, Il y a déjà deux patchs qui sont sortis sous Linux en 3 semaines qui ont résolu pas mal de problèmes. Je pense personnellement que les problèmes que j'ai au niveau des textures viennent surtout du fait que mes pilotes de carte graphique ne sont pas à jour, du fait que sous SteamOS, ils ne sont pas, ce ne sont pas les derniers. Et je n'ai pas envie de les mettre à jour manuellement. Mais voilà,
c'est une grande avancée.
C'est une grande avancée.
Les joueurs sous Linux.
Voilà. Sachant qu'il apparaît à peu près qu'il y a à peu près 1% de joueurs utilisant Steam sous Linux, enfin un joueur 1% pardon de joueurs qui utilisent Steam et qui sont sous Linux. Ça représente grosso modo 1 million de joueurs sous Linux dans le monde, ce qui est quand même pas négligeable, et que c'est par la venue de titres comme ça, on a tendance à appeler triple A, sur notre plateforme préférée, qu'on va attirer un peu plus de monde et qu'on va commencer à peser dans un premier temps auprès d'éditeurs de jeux vidéo et espérons-le dans un second temps auprès d'éditeurs de logiciels en tout genre, pour que enfin nous puissions dominer le monde. Voilà, mais pas que sur les smartphones quand même.
Ça prouve quelque part que ce million de joueurs est quand même assez intéressant, et que ça prouve tout simplement que les éditeurs de jeux font attention à ce million de joueurs.
Alors, j'ai justement la réflexion que je me faisais, tu mets le doigt dessus, c'est se dire que voilà, il y a quand même 1 million de joueurs, c'est quand tu vends un titre 50 €, ça peut représenter 50 millions d'euros. Alors, et effectivement, c'est un bon calcul que peuvent faire pour l'instant les éditeurs, pour l'instant. Parce qu'effectivement, des titres, des gros titres, avec des jeux à gros budget qui sortent sous Linux, il n'y en a pas beaucoup. Et s'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que parmi ces millions de joueurs, il y en a peut-être 50% qui sont plus enclins à l'acheter parce qu'ils disent « on a tellement peu de jeux de ce type-là sur notre plateforme que… » Donc effectivement, ça peut représenter un énorme avantage financier pour les sociétés éditrices et productrices de jeux vidéo. Après, quand on sera… si on était habitué à avoir plus de jeux AAA, peut-être qu'on en achèterait moins et que ce million serait moins intéressant. Ouais. Voilà, à voir. L'avenir va se jouer de toute façon à la Games Developer Conference qui se joue bientôt, où Valve va nous parler notamment des Steam Machines, du Steam Controller et de l'avenir de SteamOS. On va aussi nous parler de GL Next, qui est l'API qui devrait succéder à OpenGL, que Valve est en train de mettre au point avec plein de beaux mondes, dont les gens de Kronos qui sont derrière le standard OpenGL, avec des gens de DICE, c'est Electronic Arts, hein, c'est des gros jeux avec Nvidia et d'autres entreprises. Donc là on attend, on en apprend. Je crois que c'est au mois de mars. Je vais vous dire ça. On va bien noter en même temps un petit peu.
Allez hop.
Allez. Alors on cherche sur.
Je reclique sur la page.
GDC. Voilà. On cherche sur DuckDuckGo. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Le canard est notre ami.
C'est ça. Oui, en fait, non. Mon ordinateur n'est pas bien configuré. C'est pas le canard. Mince.
Mince.
Il va falloir changer ça. Vite. En même temps, l'ordinateur radio ne sert pas beaucoup pour aller sur Internet.
Normalement, non. Mais bon.
Alors, c'est du 2 au 6 mars à San Francisco, en Californie. Donc,
oui, c'est dans pas longtemps.
Et voilà, donc ça veut dire
le mois prochain.
Voilà, pour la prochaine radio, on vous tiendra au courant de ce qui s'est dit. On fera peut-être une émission spéciale jeux vidéo si Mathieu veut bien venir.
Oui, mais s'il est encore là.
S'il est encore là. Côté jeux vidéo aussi, ça bouge un petit peu du côté de BioShock Infinite. On en avait déjà parlé avant la fin de cette année. BioShock Infinite, beaucoup de joueurs le connaissent. C'est un bon FPS. Pareil, un gros titre sous Windows et sous Mac et aussi sur toutes les consoles. Il devrait sortir sous Linux et ça avance. On voit sur le site steamdb.info, qui, je le rappelle, est un site où on peut voir qu'est-ce qui se passe. C'est dans l'arrière-cour de Steam que font les développeurs. On voit que les dépôts contenant les binaires Linux sont mis à jour relativement régulièrement. Il y a tous les 15 jours à peu près un regain d'activité qui laisse penser que les développeurs du portage de BioShock Infinite sous Linux avancent. Donc on attend pour l'instant aucune news de 2K qui est l'éditeur du jeu. Mais on attend, on espère, hein, moi aussi, j'attends avec impatience de pouvoir rejouer à BioShock Infinite, mais sous SteamOS, avec un matériel plus décent que ma vieille Xbox 360. Donc voilà, je suis un peu tout seul. Hein,
oui, parce que là, moi, je ne sais pas de quoi tu me parles.
Ouais, c'est pareil, BioShock encore.
Voilà.
Il faut que tu te mettes à Dying Light.
Ouais, je pense. Dès que j'ai installé Linux.
Voilà, il y a aussi sur le site Linux Gaming, dans Gaming on Linux, pardon. Alors on va y aller faire un tour. Pour moi, c'est un site de référence au niveau du jeu vidéo sous Linux. En fait, il parle de deux jeux que j'attends avec assez d'impatience aussi. Alors, attendez, hop.
Le fameux clavier.
Ah, il est bien mon micro. Alors, il parle de deux jeux que j'attends. Un qui s'appelle Red Godness. C'est un jeu de plateforme beat'em all vu de côté. Ça fait un peu old school. C'est un jeu qui paraît moi j'aime bien les jeux de plateforme. J'ai toujours resté un fan de Mario. Avec en plus une dimension un peu baston. Ça a l'air assez intéressant. Vous allez contrôler trois personnages à la fois. La possibilité des personnages de se transformer pour filer des grognons à plein de méchants vilains. C'est un jeu qui va utiliser l'Unreal Engine 4. Ça sera le premier jeu disponible sous Linux à utiliser ce moteur graphique, donc le moteur de Epic nouvelle génération. Moi, c'est un jeu que je vais suivre de près parce qu'il m'intéresse pas mal. Un autre jeu aussi à venir cette fois-ci avant la fin du mois, Hot Tin Roof. C'est un jeu un peu à l'esprit un peu noir, mais cartoon, où vous dirigez un personnage et son chat coiffé d'un joli chapeau. On a une connexion qui marche très très bien. On va pas leur faire de la pub, hein, c'est SFR et ça marche mal.
Ouais. C'est du full SFR du coup.
Voilà, donc du coup, vous êtes de retour sur Radio Girol. On est avec Antoine. Est-ce que tu nous entends, Antoine ?
Non. Je vous entends.
Ah bon, oui. Antoine est ici. Donc, on était en train de parler du Raspberry Pi. On se croirait revenu, Antoine, rappelle-toi, à la bonne époque où notre radio fonctionnait sous Windows et où ça plantait et qu'il y avait des noirs comme ça pendant l'émission Radio Girol.
Mais complètement.
Oui.
Et puis, c'est rigolo que tu parles de Windows parce que on est en train de parler de Raspberry Pi et apparemment, il y a Microsoft qui est en train aussi de proposer une version Windows 10 pour Raspberry Pi 2.
Et gratuite.
Oui, mais ça prend toute la place sur le Raspberry Pi. Donc, il pourrait rien mettre d'autre.
Oui, ça se trouve, c'est juste pour afficher le logo Windows. Ça, il n'y aura plus de RAM. Ça ne fonctionnera plus.
Ça n'a pas l'intérêt, mais bon.
Non, mais si, je pense que c'est une des preuves qu'ils ont quand même relativement peur de ce petit ordinateur et de l'engouement de plein de gens qui aiment ce petit ordinateur pour les distributions Linux qui l'accompagnent.
Et oui, parce que c'est rempli de projets. Si vous allez sur Kickstarter ou d'autres moteurs remplis de petites graines pour entretenir des projets électriques ou des tout ce qui est
il y a pas mal de choses avec le Raspberry Pi sur Inscriptable.
Plein de sites autour de la domotique aussi.
Ouais. Voilà, tout ce qui est domotique, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment en effervescence. Donc je pense que Windows a dit mais comment c'est possible qu'on n'est pas encore là-dedans? Donc ils se sont dit on va faire une version spéciale pour Raspberry Pi.
Et qui vont fournir gratuitement. Mais moi, je pense que je vais regarder ce que ça donne parce qu'on va bien rigoler.
Oui, c'est fort possible que ça fonctionne pas des masses. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on a une vitesse quasiment 6 fois plus rapide par rapport à l'ancienne version avec ses 1 giga de RAM et on reste au même prix. Donc c'est assez exceptionnel.
Ah, c'est une très très bonne info. En attendant de voir, est-ce que tu sais si les commandes s'il est déjà commandable, si certaines personnes l'ont déjà reçu?
Oui, il est commandable. Il est commandable puisque j'en ai commandé un aujourd'hui. Et ils étaient en rupture de stock hier, je crois. Après, pour pas faire de pub, en France, vous avez Kubi pour commander. Kubii.fr. Je crois que c'est le revendeur, on va dire, quasiment officiel puisqu'ils sont partenaires avec Farnell et Element 14. Qui propose ces petits Pico ordinateurs. Et donc vous le trouvez au prix de 39,99€, auquel il faut ajouter 6€ de frais de port.
Ça va.
Voilà, par contre, on a une petite info quand même assez insolite sur le Raspberry Pi. Il serait photosensible. Certaines personnes qui l'ont pris en photo auraient remarqué que lorsqu'ils prenaient une photo de leur Raspberry Pi 2 tout neuf, tout beau, il reboutait.
Photosensible.
Oh merde.
Il est photosensible. Nous avons un ordinateur qui n'aime pas être pris en photo.
Il faut protéger sa vie privée.
Voilà, il faut protéger sa vie privée. C'est un ordinateur qui n'est pas fait ni pour Paris Hilton ou pour non. Ce genre de.
Marche pas.
Après, pour la petite différence aussi, vous avez avant c'était une carte micro SD, non mini SD, non.
Micro SD, oui, c'était du micro. Non, c'était du SD. Maintenant, c'est du micro SD.
C'est du SD, et voilà, maintenant c'est du micro SD, tout à fait. Et ensuite, sur les dernières différences, ça a été inclus assez récemment, il y a 4 ports USB. Donc je crois que ça le faisait déjà sur la carte qui avait été sortie il y a 6 mois.
Le Raspberry Pi, le premier 512, la révision B2, je crois, il avait déjà effectivement 4 ports USB.
Voilà, ça reste assez récent, mais voilà, cette dernière version inclut tout.
Après, il y avait aussi une remarque qui était sortie sur le premier Raspberry Pi, enfin le Raspberry Pi le A et B, c'était que l'interface réseau était câblée en USB, donc elle prenait beaucoup de bandes passantes sur l'USB et inversement, si on mettait un disque dur en USB sur le Raspberry Pi et qu'on voulait utiliser le réseau et le disque dur étaient obligés de se partager la bande passante. Est-ce que tu sais si ça a été résolu dans cette version du Raspberry Pi?
Je crois que ça n'a pas été résolu. Je suis en train de chercher sur les forums et il me semble avoir vu passer que ce n'était pas résolu.
C'est vraiment dommage puisque du coup,
en tant que
Media Center, c'était voilà, c'est en fait tous les périphériques du Raspberry Pi se partageaient en fait la bande passante du bus USB 2. Donc voilà, c'était un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, on ne va pas chipoter pour 39 €, voilà, plus les frais de port, avoir un ordinateur qui vous permet de vous faire tourner quand même pas mal de logiciels.
Alors, et pour la petite histoire, par rapport à la photosensibilité, effectivement, ça pose un problème sur la tension quand c'est un flash au xénon, mais ça pose pas de problème quand c'est un flash à LED.
Eh ben, dis donc.
Le Raspberry Pi aime les smartphones, c'est pour ça.
Ouais, tout à fait.
Son copain, sur la même taille?
C'est ça, à peu près. Ils partagent aussi le même type de processeur, et puis on peut mettre Android sur un Raspberry Pi.
En même temps.
Bon. Tu nous feras un petit retour de toute façon sur ton achat, on compte sur toi.
Oui, tout à fait.
Bon, Samir avait une question.
Ouais, pour les non-initiés comme moi, quel est l'intérêt d'un petit ordinateur comme celui-là? Je vois en trimballant sur Wikipédia que c'est fait pour des petits logiciels de programmation. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres logiciels? Enfin, quel est l'intérêt principal?
Alors, l'intérêt principal, c'est que beaucoup de gens ont utilisé le Raspberry Pi pour apprendre déjà. C'est un ordinateur qui est très simple à prendre en main, où il y a tout un panel de logiciels qui ont été développés pour apprendre la programmation, par exemple. Beaucoup d'ateliers dans les écoles se font aussi à base de Raspberry Pi, surtout en Angleterre, son pays où il a été créé. L'autre chose, c'est que du coup, étant donné que c'est un petit ordinateur qui consomme très peu d'énergie, on peut s'en servir pour l'embarquer. Il y a des gens qui font de la robotique qui utilisent le Raspberry Pi parce qu'il a quand même un processeur assez performant. C'est quand même un smartphone d'il y a 2-3 ans, hein, un bas de gamme certes, mais avec quand même pour les versions B, 512 mégas de mémoire. La possibilité d'y brancher, en fait, sur le Raspberry Pi, tu as plein de connecteurs, broches sur lesquels tu vas pouvoir brancher des éléments et que tu vas pouvoir contrôler facilement par un logiciel. Donc, pour faire de la robotique, pour faire de la domotique. C'est toi, Antoine, qui avait créé, me semble-t-il, un logiciel. Enfin, tu t'en étais servi pour pouvoir contrôler la température de ta maison.
Oui, complètement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage par rapport à d'autres cartes comme Arduino, c'est qu'on peut écrire dans plein de langages différents sur le Raspberry Pi, puisque c'est vraiment un ordinateur. C'est-à-dire que là, Windows va bientôt arriver dessus, mais sinon, avec du Linux, on peut faire tourner les mêmes logiciels qu'on ferait tourner avec un ordinateur de bureau standard.
D'accord. La pêche en moins, parce qu'il y avait quand même... C'est une carte relativement performante pour sa taille, mais par contre, il ne faut pas imaginer faire du jeu vidéo ou même, voilà, certains ont installé Android, beaucoup, moi le premier, j'en ai acheté un pour installer un petit Media Center, je branchais ça sur la télé en HDMI, et ça me permettait de pouvoir regarder mes films, même en HD, à partir de mon réseau, par exemple. C'est ce que tu fais aussi, Antoine, me semble-t-il.
Oui, voilà, j'en ai un branché à la télé, et un autre branché au vidéoprojecteur. L'avantage, c'est qu'effectivement, pour faire tourner des films en très haute qualité, ça fonctionne très bien. Et puis, on peut soit brancher un disque dur parce qu'il y a des ports USB, soit on peut venir streamer depuis notre serveur la vidéo. Ça fonctionne extrêmement bien.
T'en as un aussi avec une utilisation encore plus particulière où tu lui fais imprimer, il contrôle, tu lui fais imprimer des choses, des étiquettes.
Oui, en fait, j'ai une petite imprimante à étiquettes, en fait. C'est-à-dire que ça imprime des codes barres et ensuite j'ai une petite scanette à codes barres qui est justement branchée aussi en USB au Raspberry Pi qui permet de scanner les codes barres pour déclencher des actions.
D'accord, donc voilà, c'est un petit ordinateur qui a beaucoup d'utilité. L'avantage, c'est que tu le payes pas cher, donc si tu le casses, c'est pas très grave. Et justement, tu peux le manipuler
facilement.
Voilà, facilement Et c'est, voilà, tu le fais, il démarre simplement.
On peut aussi facilement faire de l'auto-hébergement avec. C'est-à-dire que vous pouvez le brancher pour qu'il reste connecté à Internet et dessus installer des petits logiciels qui vous permettent d'accéder à vos fichiers chez vous, en branchant un disque dur en permanence ou en mettant un petit site Internet. Bon, petit quand même, hein. Ou encore même faire de la voix sur IP puisqu'il y a les logiciels de voix sur IP qui tournent très bien dessus en tant que serveur.
Voilà, il y a beaucoup de logiciels effectivement qui se sont mis à développer des versions pour Raspberry Pi. Moi, je pense notamment à C-File. Je vous en ai déjà sûrement parlé. Voilà, sur cette radio, c'est un petit logiciel qui permet de remplacer Dropbox. Hein, et les créateurs du logiciel qui est libre ont créé une image que tu, ce qu'on appelle une image que tu transfères sur une carte SD et que tu le mets dans la Raspberry Pi et ton Raspberry Pi se transforme en cloud personnel, en fait, en gestionnaire de fichiers accessible, comme il dit Antoine, depuis n'importe où sur Internet. Donc c'est ça tout l'intérêt.
Ensuite, il y a aussi une distribution qui s'appelle RetroPi, qui permet de faire fonctionner en fait les émulateurs de SNES, de NES, tout ça, et pour les brancher directement à la télé avec une petite manette en USB.
Voilà, faire du rétro gaming. Et du coup, il y a des bornes d'arcade qui ont des mecs qui ont fait des toutes petites bornes d'arcade avec des petits écrans 5-6 pouces pour pouvoir jouer à des vieux jeux vidéo, effectivement, à des anciennes versions de Pac-Man ou que sais-je encore. Donc voilà, beaucoup d'utilité. En fait,
ensuite, la communauté aussi à quelques cartes qui peuvent se brancher dessus, notamment pour mettre une webcam ou pour mettre un écran, des petits écrans. Donc l'avantage, c'est de pouvoir vraiment construire tout un tas de choses, un serveur de webcam, un écran tactile. On peut vraiment faire ce qu'on veut dessus
et développer.
Ça laisse vraiment la place à plein d'idées.
On peut télésurveiller sa maison.
Ça peut être pas mal.
Complètement.
Bon, merci Toinon pour ce retour sur le Raspberry Pi 2. Est-ce que tu as eu d'autres news, toi ?
Pas cette semaine, non.
Bon. Et quand c'est que tu viens nous voir à Girol ? Quand tu auras pas la flemme ?
Ah, mais peut-être quand j'aurai pas la flemme.
C'est ça, de partir en banlieue.
C'est-à-dire que je suis sorti tard du travail, alors j'avais le choix soit d'arriver très en retard, soit d'arriver plus tôt chez moi et d'essayer de faire le duplex. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué puisque autant la voix sur IP là pour discuter entre nous, ça marche très bien depuis un téléphone portable qu'un logiciel de voix sur IP, c'est comme ça que j'utilise depuis des années maintenant. Mais depuis Ubuntu, j'ai essayé Ekiga, Softphone, Linphone. À chaque fois, il y avait des bugs assez bizarres. Par exemple, je pouvais pas ajouter de compte ou alors Linphone par exemple, j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait mettre le mot de passe pour se connecter. Il manque le champ mot de passe.
En fait,
qui est assez problématique.
Faut enlever Ubuntu.
C'est ça.
Mais je pense que le bug est là, ouais. Le bug est là.
Alors, juste, on te garde en ligne, Antoine, à moins que tu aies d'autres choses à faire, hein, chamout à caresser ou d'autres, non ?
Mais qui
est Non, je reste ici, je reste dans le coin.
Je te propose une petite pause musicale. On va s'écouter How Many Time, El Efecto HBC. Donc, How Many Time, groupe de hip-hop espagnol qui est très très bon. Et on reviendra et on va parler de l'autre news de la semaine qu'on a complètement oublié, c'est l'Ubuntu Phone. Parce qu'on aime Ubuntu chez Girol.
Bah, tu vois que
comment
tu sers
hyper
bien ta question.
Ouais,
ouais
super.
Je ne connaissais pas, donc.
Nickel.
Je ne connaissais pas du tout.
T'as des infos ?
Bon, ça va la qualité audio ?
Attends, ouais, nickel.
Alza la vista, fija su mirada, entrecalada, se consume su perfume, está morada en una sílaba, va, cortarle las alas, vacila al silbar, buscando una morada y no ve nada, ansia la libertad, mastica el vértigo, su odio lo invierte en hacer rap frenético, su ira es el silencio, su rabia el callar, si habla no vale, se sale, destaca de lo normal, rebelde sin causa ni pausa por casa, tranqui, con esa edad es lo que pasa, conoce a chavales, en fin, a gente nueva, ahora cambia a sus amigos por colegas, lo que
Sega. Le gusta que llueva, fiesta en casa de Joseba. Se lo ha dicho Eva, la novia de Adán, con Peter Juan, primo de Alonso, colega del Nico, el que reparte galletas en la puerta al ciber. No sé si me explico, tú cierra el pico, que si no te copia, HMC va a ser tu fobia, mi cruta agobia, mi autoestima y mi talento represento. Eres tonto, por una frase del Frano, los del Chacho te desmonto. Raperos van con V y fusionan alto, su listón está en las nubes, pasan de club y de tanto, que pa' eso está la Antoine, tu man vivo por bulería o Dranamba. HBC, como siempre, aunque algunos solo a veces miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel, sienta de muerte. Te QTC en la pared, este menester que represente, gente. El efecto HBC está en el aire. Se pinta, se arregla, se peina, es la reina de sus Kelly. Se la ve feliz, fuera de la ley, se la suda el ser. Y lo que dicen por ahí va a salir, con ese tipito, ¿quién se puede resistir? Hoy se come algún MC y su aparato, solo echando el rato, o acaba echando el pato. Lo pone en su contrato, hasta que te el flato. Tacón de aguja a su zapato, pa' machacar plato. Se pone cerda, se mueve por la moderna. No te acerques, hermano, esa tiene un problema entre las piernas. Cuestión eterna, no se preocupe, en la puerta al Procopé, sin el tupé, siempre lo supe. Efecto HBC, viene a ser la crema, disculpe. Fumetas a pastar, enfrente el Lone Star, sin afán de molestar. Jomeni Tang, Indenaya Company, vienen de guay por ahí, dando ay, ay, ay. Alguien me dijo, así como cenizo, raperos con V, no postizo. Así se hizo, es el proyecto, por maqueta, por directo. Comentarios de enemigo por el suelo quedan presto. Esto es que rulamos por el césped. Debe ser que no se atreve, solo otro huésped que pierde la fe, no debe ser. Cuando vuelva tenemos el efecto HBC. HBC, como siempre, aunque algunos solo a veces miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel, sienta de muerte. Te QTC en la pared, este menester que represente, gente. El efecto HBC está en el aire. HBC, como siempre, aunque algunos solo a veces miente. Si te apetece, vente. Tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel, sienta de muerte. Te QTC en la pared, este menester que represente, gente. El efecto HBC está en el aire.
T'écoutes Radio Girol.
www.girol.org.
De retour sur Radio Girol en direct. Il paraît que la musique, on n'entendait pas beaucoup. Il y a peut-être des choses à voir avec la gestion de la VOIP encore sous IDJC. Hein. On n'est pas encore parfait.
Peut-être, je sais pas.
Voilà, les pieds nickelés de la radio, c'est nous.
C'est nous.
On est toujours avec Antoine. Si t'es toujours là, Antoine.
Eh ben non.
Ouais.
Il y a un peu de latence quand même. Hein.
Mais si, je suis là.
Ouais. Alors, nous allons parler de l'annonce.
Oui, quelques
aussi.
Secondes.
Ouais. Mm-hmm. Nous allons parler de l'annonce qui a été faite par Canonical. Les Ubuntu Phone sont une réalité, ça y est, grâce à une société espagnole qui s'appelle BQ, qui a décliné un de ses smartphones qui s'appelait déjà l'Aquarius Q4.5, qui en a décliné version Ubuntu Phone. Donc ça y est, c'est une réalité. On peut acheter en Europe, ou du moins on pourra acheter à partir de la semaine prochaine, je crois, des téléphones sur Ubuntu Phone. Moi personnellement, je suis plutôt tenté. Voilà, ça fait un acteur de plus dans la course.
Ouais, mais alors vu le temps que j'ai mis sous Ubuntu pour faire fonctionner un logiciel voix sur IP, je me dis que sur leur téléphone, ça doit être vraiment galère.
C'est à voir, c'est à tester. T'as pas envie de tester quand même ?
Mais si.
En fait, il y a vraiment de la latence, il y a 4-5 secondes de latence.
Oui, il y en a un peu plus depuis tout à l'heure, j'ai l'impression.
Ouais, il y a un peu plus de latence depuis tout à l'heure.
Ouais. Bon, on expérimente.
On expérimente.
Non, il faut qu'on relance notre appel, peut-être.
Oui, voilà.
Allez, je te rappelle. Hop, on rappelle Antoine. Alors, ça sonne.
Non, ça va de son proxy, hein, donc. Bon, et là, on est toujours en live.
Allô.
ou pas, parce que
oui.
Grand silence.
Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on a une attente inférieure?
Là, c'est bien mieux. Il va falloir que tu fasses quelque chose à ton Astérix.
Bon, tant mieux.
Non, on a quand même pas mal de latence. Donc oui, est-ce que ça te tente pas, toi, Antoine, de tester un téléphone sur Ubuntu pour voir ce que ça donne un petit peu, et puis changer un peu de crèmerie, voir ce qui se passe loin d'Android?
Ah, mais sans problème. Tester, c'est pas un problème. D'ailleurs, j'invite Ubuntu à nous envoyer des téléphones de test. Après, acheter, c'est autre chose. On verra si ça marche.
Non, mais on fera demander à Nico, mais je pense qu'il va se laisser tenter Nico et qu'il nous fera un petit retour sur Radio Girol quand il sera bien installé à Grenoble. On lui passera un petit coup de fil puisque ça fonctionne à peu près. À moins qu'il nous écoute là ce soir et qu'il nous appelle, hein, on est ouvert à tous ses appels. Hein. Il a lui aussi une ligne sur numbox.fr et donc il peut nous appeler gratuitement en composant le numéro de ligne. C'est quoi ici? Je sais plus. Le 2431.
Oui, c'est ça.
2431, oui.
Ouais. Voilà, pour tous nos auditeurs qui ont un numéro numbox, ils peuvent nous joindre sur le 2431. Voilà. C'est génial. Ils tomberont sur
@numbox.fr.
Ouais, voilà. Pour ceux qui ont des comptes SIP standard. C'est vrai. Je suis pas encore très au fait de la SIP. Donc, ils ont annoncé ça. J'ai un peu recherché. Moi, ce que j'attends d'un smartphone, c'est que je puisse synchroniser mes contacts et mes calendriers, qui sont quand même un élément très essentiel des téléphones maintenant, depuis mon serveur à moi. Chose qui n'est pas très très possible sur Firefox OS. C'est d'ailleurs génial, Tristan Nitton y allait de sa petite plume pour nous expliquer qu'il quittait Mozilla, mais que il était là, voilà, qu'il fallait se dégoogliser en quelque sorte, qu'il fallait la liberté.
En même temps, ce qui est très drôle, c'est qu'on a des téléphones qui sont capables de faire de la 3D, de la NFC, de l'infrarouge, tout un tas de fonctionnalités monstres. Mais on a toujours du mal à faire de la synchronisation de 4 POF contacts.
C'est ça.
Oui, entre deux annuaires.
Et donc, ce que j'aimais beaucoup, parce que je vais quand même y aller un peu plus court, c'est que sous Firefox OS, qui se veut le système d'exploitation pour téléphone portable, qui protège son utilisateur et tout, on peut synchroniser les contacts avec Google et avec Facebook. Voilà. C'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je ne passe pas le pas. Et à partir du moment où il y aura une synchronisation possible à partir de son propre environnement, à savoir moi un serveur qui tourne sous Radical, un petit logiciel libre pour gérer le CardAV, donc calendrier contact, qui est hébergé chez moi, à partir du moment où je pourrais utiliser, je saute le pas, je passe sous Firefox OS. Il ne me manque que ça. Et j'espère, voilà, peut-être qu'Ubuntu Phone le proposera, et peut-être que du coup je passerai sur Ubuntu Phone avant de passer sous Firefox OS, ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup Firefox. Voilà. Toi, Isa, tu synchronises comment tes contacts?
Ben moi, je suis toujours chez Google, hein. Donc voilà quoi.
Il faut que tu te prennes un Raspberry Pi.
Oui, comme téléphone, tu veux dire? Non, ça va pas le faire là.
Pour t'auto-héberger?
Non, oui. Mais déjà, il faut que je change de ROM aussi parce que je suis sur une vieille version de Cyanogen qui merdoie bien comme il faut ces temps-ci. Mon téléphone reboot à la moindre occasion.
C'est plutôt un signe de vieillesse de ton téléphone.
Peut-être. Oui, enfin, merde.
Est-ce que t'es sûr que ton téléphone n'est pas photosensible?
Ah, écoute, je lui ai pas demandé. Je lui ai posé la question.
Est-ce que, téléphone d'Isa, tu es photosensible? On pourra tester avec un flash au Xénon.
Non, je sais pas. Je sais pas. Il est pas si vieux que ça, hein, donc je sais pas.
Et toi, Samir?
Moi, je suis chez Samsung.
Oui, mais tu vois, je suis sur Samsung. Tes contacts et tes calendriers, tu les gères comment?
Ça s'est bien synchronisé. J'ai tous mes contacts Skype et Facebook.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était la question. Tu utilises Skype, Facebook?
Ouais, tout à fait. Et mes contacts perso.
On va t'évangéliser.
Je demande que ça.
Oui, mais on n'a pas les outils. C'est fort.
Si, sur Android, on peut synchroniser ses calendriers, enfin, calendrier contact, on peut les synchroniser avec une appli qui s'appelle DavDroid et qui est libre.
Oh, yeah.
Disponible sur le marché d'applications FDroid. Voilà, qui est un marché d'applications, un Google Play libre, hein, où on trouve des applications libres. Voilà. Oui. Pour ceux qui ont envie de s'évangéliser jusqu'au bout.
D'ailleurs, j'en ai trouvé une, tiens, qui fait podomètre, hein, Antoine. Toi qui es passé à une appli googlisée pour lui donner toutes tes infos de santé. Ça, c'est pas bien, je trouve. Et j'en ai trouvé une. J'ai pas eu l'occasion de la tester parce que je crois qu'il est installé aujourd'hui. Et qui s'appelle tout simplement, je vais te dire ça, qui s'appelle, j'en ai installé, mais pédometer, P-E-D-O-M-E-T-E-R, voilà,
pour simplement
pour mesurer, pour compter les pas, voilà, sur le market F-Droid.
Voilà, et c'est sur ces quelques mots Libre et Android.
Il est déjà
20h que l'on va se quitter. Je vous propose une petite musique pour qu'on se quitte en musique. Cartel, Left Side, by the Left Side. Rappelez-vous, c'était Mathieu, notre fan de heavy metal et de hard rock, qui nous avait trouvé ce petit morceau voilà, aux sonorités plutôt hip-hop sur Radio Girol. On vous dit à bientôt, donc plutôt au mois prochain d'ailleurs. Hein. Nous serons au mois de mars. La GDC sera passée, on vous parlera de ça sûrement. Et ça sera le 10 mars, justement. Donc prochaine radio, le mardi 10 mars à partir de 19h, toujours en direct de notre site www.girol.org. Allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée. Bonsoir.
La latence de 5 secondes et demie.
My left side.